France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Au sein de la coalition hétéroclite entourant Donald Trump, trois tendances se dessinent. Une première nationaliste et populiste autour du vice-président J.D. Vance et Steve Bannon. Une seconde plus traditionnelle regroupant les républicains classiques. Et enfin, une tendance en partie incarnée par Elon Musk et surtout par des personnalités moins visibles autour de lui comme l'entrepreneur et ancien fondateur de PayPal Peter Thiel. La tendance la plus spectaculaire, la plus oligarchique, la plus contemporaine en ce qu'elle incarne à elle seule, le néolibéralisme ultra technologisé et globalisé, bien décidé à imposer son ordre post-démocratique au XXIe siècle, mais curieusement, par certains aspects aussi, la tendance peut-être la plus anachronique, celle des anarcho-libertariens. C'est sur cette tendance mystérieuse que se concentre le livre « On ne peut plus actuel » du professeur d'histoire globale Quinn Slobodian, « Le capitalisme de l'apocalypse », un livre qu'il faut lire pour comprendre le monde dans lequel on est entré au début de ce siècle. Quinn Slobodian, bonjour.
Hi.
Vous êtes, je viens de le dire, professeur d'histoire économique et politique globale à l'Université de Boston. Vous avez écrit avant ce livre « Les globalistes, une histoire intellectuelle du néolibéralisme ». Et ce livre, « Le capitalisme de l'apocalypse », c'est sous-titré « Le rêve d'un monde sans démocratie ». Et on va essayer d'expliquer pourquoi et comment cette tendance est née et d'où elle est née, puisque c'est ce que vous racontez. C'est un livre d'histoire, en fait, que vous racontez, d'histoire contemporaine. Mais d'abord, un mot sur le titre. Pourquoi ce titre, « Le capitalisme de l'apocalypse »,« Crack up capitalism dans la version originale, c'est-à-dire un capitalisme de fragmentation, en fait.
So the title that I chose in English that also works, I think, for French.
Le titre que j'ai choisi en anglais, qui fonctionne aussi en français, c'est à la fois descriptif et normatif.
So descriptively,
de façon descriptive, je pense que je crois qu'on échoue lorsque on dessine le monde comme un damier ou comme un échiquier de nations les unes à côté des autres. En fait, ce sont des concentrations d'espace qui sont à la surface des nations. Et je présente les 5400 zones économiques spéciales qui existent à travers le monde comme un exemple de la façon dont le capitalisme fonctionne à travers la fragmentation. Dans le même temps, l'aspect normatif, c'est la description d'une philosophie qui émerge des libertariens, qui présente le futur sur la façon dont les États-nations vont cesser d'exister et que le monde deviendra un espace de communautés fermées et privées. Et c'est une nouvelle vision, une nouvelle version de l'économie où Lionel Shriver décrit cela comme une économie de l'apocalypse.
Oui, Lionel Shriver, c'est dans son roman Les Mandibles, en 2016, Les Mandibles, c'est le nom de la famille dont les membres sont les principaux personnages du roman. Elle parle effectivement de l'économie de l'apocalypse. Lionel Shriver, qui est une romancière américaine, qui se dit elle-même libertarienne, mais opposée à ce type d'économie. Donc les choses sont complexes. Les zones, la notion de zone est effectivement très importante dans votre livre, et on peut commencer par là. Qu'est-ce que c'est qu'une zone ? Vous racontez comment l'idée est née en partie dans les années 80 avec les réformes néolibérales de Thatcher et Reagan, mais surtout à partir de la fin de l'Empire et du communisme, quand on a vu naître une multitude de nouveaux États-nations souverains au tournant des années 90. Et comment, en fait, la dissolution du bloc soviétique, en donnant naissance à cette multitude de nations, a donné des idées aux libertariens. Et effectivement, vous comptabilisez 5400 zones. Et ce que vous appelez les zones, c'est des territoires. qui sont au sein des États, mais dont les régimes institutionnels sont différents. Et vous dites certains ne sont pas plus grands qu'une usine ou un entrepôt, simple point de communication dans le circuit logistique du marché mondial. D'autres se présentent sous la forme de méga projets urbains tels que New Songdo City en Corée du Sud, Neom en Arabie Saoudite ou la ville de Fujisawa au Japon.
Well, I think the nation state has always posed a kind of challenge to the smooth functioning of global capitalism.
Un défi pour le fonctionnement sans faille du néo-capitalisme.
If you take the principle of national self-determination,
d'autodétermination pris au sérieux, ça signifie qu'il y a toujours un contrôle national des ressources au sein des pays, au sein des frontières d'un pays. Et peut-être aussi un niveau de prise de décision sur la façon dont les ressources sont utilisées. Comme la fin de l'Empire l'a montré,
de l'Empire soviétique,
avec maintenant la naissance de quasiment 200 États-nations,
oui.
Il y a eu un effort pour maintenir la sécurité du capital au sein des frontières, pour être certain de la sécurité des investissements, même dans des États postcoloniaux.
Et
les zones économiques spéciales ont été créées effectivement pour créer des espaces isolés au sein des nations, des États, où les investisseurs se sentiraient plus en sécurité, où les règlements seraient en leur faveur, où il n'y aurait pas d'interruption par des gouvernements démocratiques dans le fonctionnement de leurs entreprises. Ça a émergé tout d'abord dans des lieux comme Taïwan, Porto Rico, dans les années 1950, dans les années 60, comme une façon de faire venir des investisseurs mobiles qui commençaient à délocaliser leurs entreprises, leurs usines. Mais ça a vraiment décollé à la fin des années 70, dans les années 80, lorsque la Chine a choisi des zones comme une manière de pouvoir libéraliser et ouvrir sa propre économie. Comme je le montre dans mon livre, à la fin des années 70, deux personnes sont tombées amoureuses de Hong Kong. La première, c'est Deng Xiaoping, qui utilise ce modèle de petit espace d'expérimentation pour petit à petit, graduellement, introduire la marchandisation, la compétition au sein de l'État communiste chinois. Et l'autre, c'est Milton Friedman, le célèbre économiste libertarien.
Nobel Prize winning economist.
Oui, prix Nobel d'économie. Qui a commencé sa série télévisée Libre de choisir en discutant de Hong Kong comme étant le vaisseau idéal, le véhicule idéal pour le néo-capitalisme. Et c'était très étrange à l'époque, parce que Hong Kong était toujours une colonie et n'avait pas de démocratie. Et on est dans un domaine où le principe de l'autodétermination et du suffrage universel, on pensait que c'était mondial. Donc l'expansion de la galaxie des zones économiques spéciales s'est produite comme une manière de produire un raccourci par-delà la démocratie pour pouvoir huiler les rouages des investissements mondiaux.
Voilà.
L'ironie de l'histoire que je raconte, c'est que ces expériences à la périphérie du globalisme, du capitalisme mondial, sont revenues au centre. Par exemple, Canary Wharf, ce quartier de Londres, est une tentative de recréer l'environnement de Hong Kong à l'intérieur du Royaume-Uni, de l'Empire.
Alors on va dire deux mots là-dessus, sur Londres. Mais d'abord, pour rester une seconde sur Hong Kong, ce qui est intéressant, c'est que Milton Friedman se demande, en découvrant le modèle de Hong Kong, s'il ne faut pas c'est pas mieux de court-circuiter le chaos démocratique pour assurer le succès du marché, vous écrivez. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la Chine communiste et des gens comme Milton Friedman se rencontrent en quelque sorte à ce moment-là. Le territoire de Hong Kong, vous dites, que constitue un sas pour la Chine ouvert sur l'économie mondiale, mais qui lui permet de s'en protéger de manière sélective. Et de l'autre côté, c'est-à-dire les négociations entre la Chine et Hong Kong vont se trouver facilitées par le fait que les élites du Parti communiste chinois, comme les milieux d'affaires de Hong Kong, partagent l'idée de Milton Friedman, selon laquelle les libertés économiques priment sur les libertés politiques. Et c'est ce point central. Une législation particulière sur Hong Kong va être révélatrice d'un changement dans la nature même du capitalisme, à une époque où les capitaux sont hypermobiles et où les sites de production sont facilement délocalisables. Et vous dites, comme dans la nature, ce qui semble d'abord relever de l'aberration législative se trouve être en fait une mutation, une adaptation à un environnement qui change. Et effectivement, cette mutation, l'exemple suivant va se trouver, vous l'écrivez, à Londres, dans le fameux quartier de Canary Wharf dont vous venez de parler, où Londres, où les autorités anglaises vont essayer de reconstituer quelque chose qui se rapproche du statut de Hong Kong dans un quartier où la population va être considérée comme une population autochtone, en quelque sorte, à gérer et éventuellement à éliminer.
Right. So the example of London, I think, is a
l'exemple de Londres est parfait parce que ça montre deux idées concurrentes pour organiser une économie.
You have at that time a very
à l'époque, vous avez un gouvernement local extrêmement puissant du Grand Londres, le Conseil du Grand Londres,
was dominated by the Labour Party,
dominé par le Parti travailliste,
but also by,
mais aussi par
young, more radical members
des jeunes membres du Parti travailliste plus radicaux qui faisaient l'expérience de choses déjà dans les années 80 qui ne deviendraient pas bien connues avant beaucoup plus longtemps.
So they had workshops.
Donc ils avaient des ateliers pour ce qu'ils appelaient des technologies utiles sociales.
They were organizing ils organisaient
des travailleurs locaux qui étaient aussi des immigrants. Ils offraient pour les nouveaux immigrants des soins quotidiens. Et c'était très différent de la vision de Thatcher de faire venir Hong Kong au cœur de Londres, qui mettait la priorité sur des transferts de fonds publics vers des développeurs privés, mettant l'accent sur les besoins du secteur privé au-dessus de tout. Et Thatcher a utilisé une solution très draconienne pour ce défi
en
mettant un terme au Conseil du Grand Londres, en le dissolvant. Donc, une des choses que j'essaie de faire dans mon livre est d'écrire une histoire intellectuelle de cette version du capitalisme qui place l'économie, plutôt la liberté économique, au-dessus de la liberté des gens, de la liberté démocratique.
Oui.
Et Milton Friedman était au cœur de cela pour essayer de créer cette nouvelle vision du monde qui simplement range les États et le monde en fonction de leur économie plutôt qu'en fonction de leur degré de liberté.
Alors, c'est effectivement, on va venir à l'aspect intellectuel. Vous citez l'architecte, l'un des plus grands architectes, l'un des plus connus en tout cas aujourd'hui, Patrick Schumacher, qui est lui-même ancien marxiste et qui théorise ça quand il dit « Les révolutions surviennent lorsque le système politique devient un obstacle aux forces de production et nous en sommes arrivés à ce stade. Dans un monde essentiellement agricole, le féodalisme faisait sens. Avec l'industrialisation, la nouvelle classe bourgeoise a eu besoin de plus de main-d'œuvre et le régime politique qui a fini par s'imposer était la démocratie. Au XXIe siècle, la situation a de nouveau changé. Avec l'automatisation croissante de la production industrielle et les progrès de l'intelligence artificielle, la démocratie ne fait plus sens. Et ça va vraiment dicter toute cette école des libertariens, des anarcho-libertariens. Avant d'en venir à l'aspect intellectuel, je voudrais finir sur l'aspect historique. Après l'an 2000, vous dites, la planète entière est gagnée par une frénésie de construction toujours plus haute. 85% de l'ensemble des biens immobiliers résidentiels haut de gamme à Londres et 50% à New York ont été achetés par des étrangers. Et dans de nombreux cas, ces biens n'ont de logement que le nom, car beaucoup de propriétaires pratiquent le buy to leave. Ça consiste à délaisser les logements qui sont achetés et à les laisser vides. Et pas n'importe quel logement. C'est-à-dire que à Manhattan, en 22, par exemple, le plus haut gratte-ciel crayon jamais construit, 24 fois plus haut que large, vend des appartements qui s'échelonnent entre 8 et 66 millions de dollars. Il ne s'agit pas de logement, ça ne sert à rien sur le plan social, c'est un produit de luxe, une sorte de yacht sur la terre ferme. Un autre appartement en 19, un penthouse, se vendra 238 millions de dollars pour un pied-à-terre de luxe qui n'est pratiquement pas habité. Vous écrivez, la zone s'est métamorphosée du secteur manufacturier à l'immobilier de bureau avant de devenir un compte bancaire en trois dimensions pour les riches. Il y a beaucoup d'autres exemples que vous donnez comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'espace urbain est complètement transformé par des appartements qui restent en quelque sorte virtuels et qui sont uniquement de l'argent mis dans de la pierre, quoi. Qui n'existe pas en tant que tel.
I think that's right. I mean, the emergence of a globalized asset
l'émergence economy, d'une économie d'actifs internationale signifie que
the social contract has also
le contrat
changed,
social a également changé.
The rapprochement of capitalism
le rapprochement
and
du capitalisme et de la démocratie était basé sur
mass industry,
l'industrie de masse et le besoin d'une population active, saine, en bonne santé, qui pourrait aller à l'usine tous les jours et fabriquer des produits.
And to win their consent,
et pour gagner leur consentement, leur accord, il y avait l'absorption des réclamations des partis de masse et des demandes des travailleurs qui accepteraient quelque chose qui serait, bon, aller jusqu'au socialisme.
But in the model of,
mais dans le modèle
sort of contractors,
de
laborers as individual contractors,
de gens des contractants et aussi avec les syndicats, la mobilité totale de la richesse d'une juridiction à l'autre, le besoin d'un consentement de masse dans le vieux style des démocraties, eh bien, c'est plus tellement urgent pour les plus riches dans ce monde-là. Ils peuvent choisir leur juridiction, ils peuvent choisir leur lieu de résidence et leurs entreprises peuvent également choisir le lieu où elles seront domiciliées pour payer le moins d'impôts sur les sociétés. Et ce faisant, je pense que ces zones ne sont pas simplement des curiosités dans des parties lointaines du monde, mais elles sont utilisées comme un moyen pour pouvoir faire pression sur les grands pays pour les forcer à baisser leurs impôts sur les sociétés ou leurs impôts sur les individus pour éviter la fuite de leurs capitaux.
Alors, Le capitalisme de l'apocalypse, Queen Slobodian. Alors effectivement, le livre est aussi une histoire intellectuelle de ce courant. On a parlé de Milton Friedman tout à l'heure. Il y a d'autres personnalités qui apparaissent, en particulier quand vous commencez à vous intéresser aux anarcho-capitalistes, qui sont les plus extrêmes. C'est le courant le plus extrême des libertariens, et c'est le plus significatif d'une certaine façon. Il y a une personnalité que vous citez qui est Murray Rothbard, qui est intéressant parce que si dans les années 60, il a vu un espoir dans l'opposition de la nouvelle gauche à la guerre du Vietnam par pacifisme, parce qu'il n'aimait pas l'État. Pour lui, le rôle de gendarme du monde que s'est arrogé l'Amérique n'est qu'un prétexte pour centraliser le pouvoir d'État et développer le système de copinage, de gaspillage et l'inefficacité du complexe militaro-industriel. Je vous cite. Et aux États-Unis, Rothbard s'est aussi intéressé au nationalisme noir. Il a admiré ceux qui, dans la lutte pour la liberté des Noirs, prônait l'entraide communautaire et l'autodéfense collective. Il préfère Malcolm X à Martin Luther King et des choses comme ça. Par contre, il est opposé aux militants progressistes blancs et noirs, à la mixité et d'une manière générale aux droits civiques. Pour lui, les Noirs doivent œuvrer avec les Noirs, tout comme les Blancs doivent œuvrer avec les Blancs. C'est intéressant parce que c'est difficile à catégoriser selon les catégories politiques traditionnelles. Certaines tendances des anarcho-libertariens les rapprochent de certaines tendances d'extrême gauche aux États-Unis comme en France. C'est assez troublant.
Yeah, I mean the anarcho-capitalist side of the story is one that
les anarcho-capitalistes ont été découverts par les historiens seulement maintenant.
And in part, we can tell it
en fait, on peut le montrer à partir de la famille Friedman, parce que le fils de Milton, David, était un théoricien actif de l'anarcho-capitalisme, et son petit-fils, Milton Friedman. Patrick Friedman
est un
capitaliste de la vallée de la Silicon Valley. Et il travaille de près avec le groupe autour de Peter Thiel, y compris Joe Lansberg. Et
Rothbard, lui, est
très intéressant de mon point de vue aussi, en raison de sa volonté de faire des alliances tactiques selon le moment politique. Donc il a travaillé avec la Nouvelle Gauche et des nationalistes noirs dans les années 60, mais dans les années 90, il travaillait avec des nationalistes blancs dans le mouvement néo-confédéré qui cherchait à faire remonter le Sud, l'indépendance du Sud aux États-Unis, des États du Sud. Donc il ne cherchait pas une pureté philosophique dans ses partenaires. Il réfléchissait en termes de créer des blocs qui pourraient être efficaces selon certaines conditions. Et là, je pense qu'il est utile pour comprendre les alliances de, par exemple, les économistes ortho-libéraux qui travaillent avec des nationalistes, par exemple, dans le parti AfD en Allemagne, Alternative für Deutschland, parce que Rothbard a soutenu le candidat présidentiel de Patrick Buchanan, si vous vous souvenez, dans les années 90 aux États-Unis, qui était une sorte d'avant-goût des politiques de Donald Trump. C'était pas un pur libertarien. Mais Rothbard voyait son utilité en cassant les coalitions existantes et les loyautés qui étaient à l'époque et efficacement utilisé comme une figure de transition qui pourrait aider à casser le gouvernement sur les ruines de ce gouvernement et pourrait construire des communautés capitalistes anarchistes. Et jusqu'à récemment, c'était vraiment une partie extrêmement petite, réduite, une niche de la philosophie néolibertarienne. Mais maintenant, c'est mis sur la scène mondiale en raison de la survenue du président argentin Javier Milei, qui se décrit lui-même comme un héritier de Rothbard, et il se décrit lui comme un anarcho-capitaliste. Donc, d'où la nécessité d'avoir une autre vision du capitalisme apocalyptique où des chefs d'État se décrivent comme des anarcho-capitalistes.
Oui. Ils sont à la tête de l'État, mais ils sont contre l'État. C'est souvent très, très contre-intuitif. Par exemple, vous dites que la Fédération Charles Koch, qui est l'un des grands financiers du mouvement libertarien, s'est prononcé en faveur de l'abolition des prisons, par exemple. Bruce Benson, un autre anarcho-libertarien, est lui aussi opposé aux prisons. Aussi, il y a une série de personnages très, très étonnants. On parlait du fils de Milton Friedman, David Friedman, qui est né en 45, vous racontez sa fascination pour le nouveau Moyen-Âge. Il n'est pas le seul. Et c'est une des caractéristiques de cette tendance que d'être à la fois ultra-technologisé, ultra-moderne et complètement tourné vers des structures sociales complètement anachroniques et même franchement féodales. À tel point que David Friedman joue un jeu de rôle. Il aime s'incarner dans ses loisirs un berbère de la haute société du début du XIIe siècle, le duc Caryadoc of the Bow. Il est membre de la société d'anachronisme créatif, Society for Creative Anachronism, SCA, un groupe qui a vu le jour à Berkeley dans les années 60. Il prodigue aussi des conseils aux gens sur la manière d'être un musulman du Moyen-Âge. Il signe son nom en arabe. Enfin, c'est très, très étonnant. Et ce sont des gens qui sont en train de façonner l'ultra-modernité d'aujourd'hui et qui ont pour modèle avoué, affirmé, un retour à une forme de féodalisme. C'est-à-dire que quand ils font l'éloge de la création de petites structures étatiques, de petits États, l'idée, c'est pratiquement de revenir à une société, à un monde fait de seigneurie, en fait.
Absolutely. I mean, the term that some of them use is a patchwork.
Et leur vision, c'est un patchwork. Et c'est, par exemple, leur vision, c'est l'Europe de l'an 1000.
In which you have où il y a une grande diversité de politiques
qui sont dirigées par des dirigeants héréditaires.
But importantly, they are all interconnected by
mais ils sont interconnectés par des acteurs économiques, des marchands, qui passent de ces politiques, de politique en politique.
And libertarians
et
are fascinated
les libertariens sont fascinés par quelque chose qui s'appelle
Lex
Mercatoria, la loi des marchands,
which the merchants of the time
que les marchands de l'époque suivaient en dépit du fait qu'aucun de ces États ne mettait en marche ou ne forçait à utiliser ou à respecter ces lois.
So the hope is to be able
donc l'espoir,
to
c'est de pouvoir recréer ce type de paysage où les souverainetés sont fracturées, réduite, petite, et pourtant, des liens commerciaux et économiques demeurent de façon robuste et liés par les moyens de l'Internet et les technologies numériques.
Oui, c'est très étonnant hein, ce mélange de féodalisme et d'ultramodernité. Il semble que ce soit une caractéristique de l'époque. Il y a d'autres personnages dont vous parlez, par exemple Gordon Tullock, qui est aussi un théoricien des anarcho-libertariens, dont le modèle est cette fois l'Empire ottoman, l'Empire ottoman ayant généralisé il voudrait généraliser les petits gouvernements privés sur le modèle des millets ottomans d'autrefois. Et il va assez loin puisqu'il suggère que dans les villes américaines contemporaines, les musulmans noirs devraient pouvoir utiliser la force policière contre leurs citoyens par leur recours à des actes de violence pouvant aller jusqu'à l'exécution, donc l'application de la charia, qui soutiendrait éventuellement au nom d'un libertarianisme radical. Et à côté de ça, il ébauche des sortes de gated communities, des communautés closes d'environ 250 différentes maisons sur les collines de Tucson et dans lesquelles il rêve de faire régner une sorte de discipline de fer, où chacun doit vivre en fonction de la même manière, un peu comme dans la série Le Prisonnier. C'est-à-dire, si vous avez envie de peindre votre maison d'une certaine couleur qui n'est pas agréée par la communauté, vous ne pouvez pas le faire. On retrouve ce mélange. C'est des théories qui semblent, des modèles de vie quotidien qui semblent complètement délirants et qui, en même temps, répondent à quelque chose de précis. C'est-à-dire, il y a un refus de ce qu'on a appelé depuis le 19e siècle la modernité, quoi.
There is, and I think this is why it's not helpful to.
Et je crois que c'est la raison pour laquelle il n'est pas utile de comprendre le moment actuel en des termes de fascisme des années du milieu du XXe siècle, ou de croire que c'est un effort de philosophie universaliste qui signifie la même loi pour tout le monde aux États-Unis, par exemple. Mais en fait, c'est pluraliste. C'est une idéologie pluraliste qui imagine quelque chose de plus dans le style des empires du 19e siècle,
ouais,
et qui en fait utilise des règles différentes dans différents endroits. Et maintenant, c'est interprété à travers l'optique économique comme le droit des consommateurs de choisir leur propre gouvernement.
Mais
il y a une ironie là-dedans, parce que les communautés closes, les gated communities, réclament aussi une diversité d'options de vie pour leurs résidents. Mais en fait, les sociétés d'assurance mettent en place des conditions égales à travers toutes les communautés closes, identiques. Donc, il y a une proposition de choix et de diversité, mais la réalité, c'est l'uniformité et l'homogénéisation. Et bien sûr, maintenant, avec le prix d'admission pour rentrer dans ces communautés closes, est très très élevé.
The center cannot hold. This is somebody else's dream. Out of the nighttime, lifelines glow in the dark. Order falls apart. Nothing is as it seems. And all of the like minds reel from this blow to the heart. Turn to each other on the night of the supermoon. There was nowhere left to run. Now it's time to do or die. Time for grieving. Time for saying goodbye. Time for leaving.
Alors, en vous écoutant, je repensais à une phrase qu'avait dit au tout début des années 2000, Helena Bonheur, qui disait que le 21e siècle serait le pire du capitalisme allié au pire du communisme. Je pense à cette phrase peut-être parce que le modèle de Friedman était Hong Kong et qu'il était assez d'accord avec la vision des Chinois, mais il y a quelque chose comme ça qui se dessine. Je vais vous faire réagir sur cette phrase.
Well, I think it's important that Peter Thiel,
il est important que Peter Thiel, dont je dis dans le livre que pensait que les deux plus grandes menaces pour l'humanité étaient la Chine et l'IA, l'intelligence artificielle. Et je pense que le moment présent d'alliance entre la technologie et Trump, les chefs de la technologie et Trump, c'est en fait de faire de l'ingénierie opposée, contraire, ou déconstruire le modèle chinois. Je pense qu'ils croient que la Chine a réussi en raison d'une relation extrêmement étroite entre un petit nombre d'oligarques et le gouvernement central. Et leur motivation, c'est de travailler avec le gouvernement pour utiliser le pouvoir fiscal du gouvernement pour réaliser leur vision à grande échelle. On l'a vu récemment avec les annonces du projet Stargate qui aura 500 milliards de dollars d'investissement. Mais si on suit l'histoire en fait de la Chine, comme décrite dans mon livre, ce n'était pas quelque chose qui était dirigé de façon centrale de Pékin, et en lien avec des oligarques de la tech. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de sociétés qui sont en train de lutter, de se combattre au niveau local, qui produisent, cette guerre produit autant de vaincus que de vainqueurs. Donc une partie de la question sur est-ce qu'on va ou on ne va pas vers un avenir à la chinoise, c'est une meilleure compréhension de ce qu'est la vérité actuelle en Chine, la réalité chinoise. Et je crains qu'il y ait une sorte de techno-orientalisme au sein de l'élite de la Silicon Valley. Ils imitent une fausse version de ce qu'ils pensent être la Chine. Et c'est ça, ils se rapprochent de plus en plus de leur vision cauchemardesque de ce qu'est la Chine, que ce n'est en réalité.
Il y a aussi quelque chose de très américain dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on a le sentiment quand on écoute quand on écoute ces théoriciens anarcho-libertariens qui prônent la fin des prisons, la fin de la police aussi, parce qu'il y a aussi cette idée que il faut recourir à des polices privées et cesser de financer les polices publiques. On retrouve là certains des mots d'ordre de l'extrême gauche. Entre 2016 et 2020, des fans de police. On a l'impression que quelque chose du tissu social américain est en train d'imploser complètement.
Il est significatif que une des utopies soit le Moyen-Âge, mais l'autre, c'est le Far West.
Oui.
Et cette croyance que la frontière, cet espace d'indépendance individuelle, sans qu'on fasse confiance à un gouvernement quelconque, eh bien, toutes les questions de loi et d'ordre étaient gérées par les communautés qui s'accordaient pour travailler ensemble, pour se défendre.
Et
je crois qu'il est important de savoir qu'un des rares moments d'alliance entre la gauche et la droite dans les années, c'était cette idée d'abolition de la police. Donc, il y a une suspicion vis-à-vis du gouvernement dans l'esprit américain qui rend ce genre d'idée d'action locale et d'aide mutuelle, ça rend ces idées très attrayantes. Mais la vérité du Far West a toujours été que la puissance de l'État était très très près des colons, et en fait, eux n'ont jamais changé le monde par eux-mêmes. Ils utilisaient l'aile militaire des gouvernements pour pouvoir expulser les populations indiennes indigènes et créer un cadre légal pour parceliser la terre et la tourner en propriété privée, la transformer en propriété privée. Donc je pense qu'une des vertus de ce moment présent où les tech libertariens sont aux côtés d'un président tel que Trump, c'est que, en fait, on a dépassé ce moment d'hypocrisie où les libertariens prétendaient de ne pas utiliser l'État. Et en fait, on va vers quelque chose qui sera au-delà de la vision de l'anarcho-capitalisme, qui sera mieux capturé dans le titre du poste d'Elon Musk
à Tesla, which is Techno King.
Tesla, c'est un techno-roi.
Un techno-roi.
C'est son titre officiel. Hein. Il n'est pas PDG. Il n'est pas DG de Tesla. Il est techno-roi. Donc cette fusion du capital technologique et de l'État est en train de produire quelque chose qui se ressemble à la techno-monarchie.
Oui. Techno-féodalisme et techno-monarchie. Une dernière question. Vous pensez que ça va marcher?
It will work for a while.
Ben, ça marchera pour un moment. La lutte au sein des méga coalitions est toujours très très intéressant à observer. Il est intéressant que Steve Bannon a pris en charge les critiques de gauche de la Silicon Valley. Il parle de techno-féodalisme.
C'est Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, le populiste en chef de 2016, qui a pris en charge les critiques de gauche contre la Silicon Valley. C'est très intéressant.
Donc, si lui réussit à gagner la bagarre, eh bien, on aura peut-être quelque chose de différent. Et si les pessimistes ont tort, alors on aura une élection dans 2 ans, et puis encore une 2 ans après, et peut-être qu'on aura à ce moment-là un débat différent.
Ashes to ashes, dust to dust. Ashes to ashes, dust to dust.
A long time ago, for ice and snow, the giants walk this land. Each step that took the mighty mountains shook, and the trees took a knee, and the seas rolled in. Then one day they say the sky gave way, and death rained down and made a terrible sound. There was fire everywhere, and nothing was spared that walked on the land and flew through the air. Wiped clean with a touch. Their God stood and saw it was good and said, ashes to ashes and dust.
Merci Quinn Slobodian d'avoir été là aujourd'hui avec nous pour présenter le livre Le capitalisme de l'apocalypse, livre très, très éclairant sur l'époque actuelle. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Lucas Dérode et à la réalisation Anna Olvek.
That his soul took to show him the road. There's blood on their hands and a plague on the land. They drew a line in the sand and made the last stand. So God made us in his image, and it's in God that we trust. When asked about the men that died by the hands, he said ashes to ashes and dust to dust. Ashes to ashes.